Chapitre 10. Après s'être entretenu avec Juna, le directeur par intérim de la NOA, Morgan Malmström, a décidé de classer l'affaire en enquête prioritaire. Cette qualification permet d'éviter de surcharger les affaires courantes de la police lorsqu'une situation extraordinaire se présente. Temporairement séparée des autres, l'enquête dispose de sa propre organisation, d'un budget spécifique et d'une équipe dédiée d'experts, de personnel juridique et d'unités opérationnelles. Morgan Malmström a nommé Manvir Rai à la tête de la cellule d'enquête. Ce dernier a aussitôt recruté Saga Bauer en tant qu'enquêtrice stagiaire. Il est 6h15 le lundi matin lorsque Saga suit Juna dans le hall vitré du bâtiment de la police nationale, passe sa carte d'accès et franchit la porte tambour. « Bienvenue à la NOA !» dit Juna lorsqu'ils sortent de l'ascenseur au 8e étage et empruntent le couloir. Ils passent devant la kitchenette déserte et bien rangée, puis continuent le long d'une rangée de portes fermées. Le lino brille à la lueur des néons et une affiche d'information sur le centre de données sur les bombes se décolle à leur passage. Une discussion animée entre Manvir, Greta et Peter s'arrête net lorsque Juna ouvre la porte et introduit Saga dans la grande salle de réunion. Sur le mur sont accrochés des clichés pris par drone des deux sites où les corps ont été découverts et de l'écurie où Margot Silverman a reçu une balle dans le dos. Entre les tasses à café et les ordinateurs sont étalées des photos fraîchement imprimées des deux figurines en étain ainsi que les analyses préliminaires du laboratoire. « Merci de m'avoir convié à l'enquête », dit Saga en serrant la main des trois inspecteurs. « Je sais que je vais apprendre beaucoup de vous, et j'espère pouvoir contribuer à résoudre ce puzzle. » Manvir l'a pris de s'asseoir devant un ordinateur, se racle la gorge et lui explique rapidement les procédures de connexion. Peter s'étrangle presque lorsqu'il s'adresse à elle. « Ce ne sont pas mes affaires », commande Greta. Mais je vous parie qu'elle en a assez d'être jugée sur son physique et qu'elle aimerait être respectée simplement pour ses compétences et son expérience professionnelle.
Ils ont dit la même chose de moi quand j'ai commencé,
plaisante Juna.
Exactement,
sourit Greta en chaussant ses lunettes. On frappe à la porte et avant que quiconque ait le temps de réagir, Werner Zanden, le chef de la CEPO, entre dans la salle de réunion. Il mesure près de 2 mètres. Et porte un pantalon froissé et un blazer marron.
Saga, j'espérais que tu reviendrais chez nous,
claironne-t-il de sa voix grave.
Tu aurais pu le demander?
Je pensais juste que...
Mais j'aurais dit non, conclut-elle.
Désolé de vous déranger, mais est-ce que quelqu'un dans cette pièce a des compétences en magie? J'ai promis à mes petits-enfants de faire léviter leur grand-mère.
Maya va léviter ?
Demande Greta avec un sourire en coin.
Werner, on essaie de travailler,
dit Saga.
Oui, désolé,
sourit-il, et il quitte la pièce. Une alarme de voiture retentit en bas, dans la rue Polemsgatan. Quelqu'un tire un chariot grinçant dans le couloir, et la ventilation diffuse son vrombissement monotone.
On commence ?
Demande Manvir en se raclant brièvement la gorge. Juna m'a parlé de la carte postale et des 9 balles blanches, du Makarov et de la menace qui pèse sur
lui,
acquiesce Saga.
C'est complètement dingue,
commande Peter.
Je sais. Nous avons un mode opératoire qui se met en place, reprend-elle. La chasse est ouverte, mais jusqu'à présent c'est le tueur qui en établit les règles.
Et c'est extrêmement inquiétant,
enchaîne Manvir.
Juna, qu'en penses-tu?
Demande Peter.
Je pense que...
Tu as déjà résolu l'affaire?
L'interrompt-il.
Non, mais je vais bientôt le faire.
Putain, c'est bien. Du calme, Peter,
intervient Greta.
Tout ça est très difficile pour moi. J'aimais Margot,
répond-il d'une voix tremblante.
C'est difficile pour tout le monde ici,
dit-elle.
Ok,
soupire Peter.
Il se lève, se poste à la fenêtre, sort sa boîte de snus et enfourre une dose sous sa lèvre.
« J'ai quelques questions pour toi, Saga. Avant qu'on commence à travailler de façon structurée, est-ce que ça te va ?»
demande Greta.
« Absolument. Tu veux d'abord un café ou autre chose ?»«
Non, merci, ça va. » répond Saga en se penchant en avant.
« La première chose que j'aimerais savoir, » dit Greta en essayant de trouver une page vierge dans son bloc-notes, « c'est si tu as une idée de la raison pour laquelle le tueur s'est tourné vers toi. »
« Non, mais j'ai l'intention de le découvrir. »
« Bon, je reprends. Pourquoi penses-tu qu'il t'a envoyé la carte postale en premier lieu ?»«
Parce que je suis la seule à pouvoir sauver Juna. C'est la raison qu'il donne. »
« Veut-il que Juna soit sauvée ?»
En tout cas, il veut que la responsabilité repose sur moi.
Peter regagne sa place et s'assied lourdement.
Mais pourquoi sur toi en particulier ?
Poursuit Greta sans lâcher Saga du regard.
Je n'en sais rien. Mais il y a probablement un lien avec Jurek Walter.
L'anagramme sur la carte postale. Acquiesce Manvir.
« Et quel lien penses-tu qu'il y ait ?»
demande Greta.
« Il s'agit de quelqu'un qui s'identifie à Jurek. Peut-être quelqu'un qui l'admire d'avoir agi si longtemps sans être arrêté.
Mais pourquoi voudrait-il tuer Juna ?»«
Juna a tué Jurek. »«
Et pourquoi veut-il que tu l'arrêtes ?»
demande Greta en se penchant en avant.
« Peut-être parce que je n'ai pas réussi à arrêter Jurek. »
Tu penses qu'il veut que tu prennes la responsabilité d'arrêter ce meurtre pour le plaisir de te voir échouer ?
Oui.
Intéressant. Consent Manvir. Juna s'efforce de ne pas sourire de fierté à la réponse précise de Saga. Elle n'a pas tenté de camoufler ni d'adoucir son propre échec.
Je suis allé à un symposium sur les tueurs en série organisé par le FBI à San Antonio, au Texas.
Raconte Greta.
La plupart des participants ont conclu assez rapidement que l'idée selon laquelle ces meurtriers veulent être arrêtés est un mythe.
Ce n'est pas forcément ce qui les fait passer à l'acte et continuer.
Avance Juna.
Je sais. Je dis simplement que les experts pensent qu'il s'agit d'un malentendu et l'expliquent par le fait que les tueurs en série prennent souvent trop confiance en eux avec le temps. Ce n'est pas qu'ils veulent être démasqués. Ils ont juste l'impression qu'ils ne peuvent pas l'être.
Mais de nombreux tueurs en série communiquent avec la police ou les médias sans aucune raison précise,
souligne Juna.
Ça ne peut pas simplement s'expliquer par le fait qu'ils sont devenus trop présomptueux.
Non, c'est vrai, je suis d'accord. Je l'ai d'ailleurs évoqué au séminaire.
Acquiesce Greta.
Je n'ai pas la même expérience que vous,
intervient Saga.
Mais c'est sans doute lié à l'idée selon laquelle de nombreux tueurs en série étaient des pyromanes dans leur enfance. Ils le redeviennent à l'âge adulte, mais sous la forme d'un jeu, ou... comment appeler ça ? D'une perte de contrôle, et donc d'une déresponsabilisation. Comme s'ils essayaient de dire « j'allume un feu qui va se propager si personne ne l'éteint ».
Bien, dit Greta. En la regardant d'un air grave.
C'est exactement comme ça que je le comprends. Notre tueur est en train de dire « Saga, je t'ai prévenu. Tu sais ce qui va se passer si tu n'éteins pas le feu. J'ai 9 balles blanches et à partir de maintenant, tu portes l'entière responsabilité de ceux qui vont mourir. » Et il peut déjà le revendiquer, parce que j'aurais pu sauver les 2 victimes si j'avais interprété les signes correctement.
Les figurines en étain lui ont été envoyées avant les meurtres. Elles dévoilaient à l'avance l'identité des victimes.
Explique Juna.
Nous avons placé 2 gars devant l'agence de détectives pour ne pas manquer l'arrivée éventuelle d'autres paquets.
Annonce Peter.
Merci. Dit Juna.
Manvir se lève. Prend une photo en gros plan de la figurine en étain représentant Margot. Et l'examine.
Les rides sur son front se creusent. « Que savons-nous de l'auteur du crime ? »
lance-t-il
en reposant la photo sur la table.
« Juste ce qu'il veut qu'on sache, »
répond Juna. « On en est sûr ?» demande Greta.
Manvir boutonne sa veste, se dirige vers le tableau blanc, prend un marqueur noir sur l'étagère et commence à écrire « Un tueur qui communique, peut-être pour se décharger de sa responsabilité. » Référence, Jurek Walter, saga, Juna. Figurine en étain, envoyée à saga, prédisant la prochaine victime. Munition, cartouche russe Makarov, 9 x 18mm parabellum, amorce au mercure, chemisage en argent. Lieu du meurtre et lieu de la découverte, différent. Corps dissous avec de la soude caustique dans des sacs mortuaires en caoutchouc. Victime, une femme d'âge moyen, directrice de la NOA, un homme âgé, prêtre à l'église Maria Magdalena. Manvir se tourne à nouveau vers les autres, s'apprête à dire quelque chose, mais reste finalement silencieux et laisse retomber sa main.
Il s'agit d'un tueur en série,
développe Juna.
Il a 9 balles dans son chargeur.
Il est possible qu'il ait déjà tué auparavant. Il n'y a aucun moyen de le savoir.
Mais je suis sûr qu'il va tuer à nouveau si on ne le trouve pas rapidement.
9 victimes, murmure Saga. Pourquoi 9 ? S'interroge Peter.
Ça peut être une question importante, dit Juna.
Manvir note sur le tableau blanc un tueur en série avec 9 victimes désignées. Puis il se tourne vers eux, rebouche son marqueur et le brandit comme s'il voulait lui donner la parole.
On n'a pas d'empreinte digitale, pas de matériel biologique, pas de fibres autres que celles associées à l'emballage, mais les particules chimiques inflammables dans le sang de Margot ne peuvent pas avoir été intentionnelles.
Non, peut-être pas.
Répond Juna. On devrait chercher plus loin avec le mercure, dit Greta.
Je suis d'accord,
opine Juna.
D'après les résultats du laboratoire, l'étain des figurines est tout à fait ordinaire, impossible à tracer, informe Manvir en se retournant vers le tableau.
Et il n'est pas nécessaire d'avoir un local ou un équipement spécial pour couler de l'étain. Le point de fusion est très bas. Une simple cuisine fait l'affaire.
Ajoute Saga pendant que Manvir écrit « Absence d'indices ».
Prudent, des notions en médecine légale. Connaissance des matériaux. Fonte d'étain, argent chauffé à blanc, soude caustique. Il se passe les images agrandies des figurines en étain. Le visage robuste, la barbe et les sourcils de Séverine. Le nez marqué. Les sourcils froncés et la tresse sur l'épaule de Margot.
J'ai fait pas mal de personnages en argile quand j'étais petit, se souvient Peter. Et je peux vous dire que j'étais bien plus minutieux. Regardez, notre tueur n'a pas fait de travail de finition. Il n'a pas poli, n'a pas enlevé les coulures et les joints.
Je suis d'accord,
confirme Manvir en ajoutant un autre point. Pas perfectionniste. Greta se lève et fixe les 2 photos agrandies des figurines sur le mur, puis elle retourne s'asseoir, se verse un verre d'eau, boit et s'essuie la bouche avec une serviette.
Les colis ont été postés depuis 2 endroits à Stockholm, reprend Manvir. L'un a été envoyé depuis la boutique du vendeur de journaux Tidningsspecialisten sur la Odengatan, et l'autre depuis la coop à Midsommarkransen. On a 2 équipes qui vérifient toutes les caméras de surveillance dans le secteur. Ça ne sert à rien de poster des hommes pour la surveillance. Il est peu probable qu'ils retournent dans ces lieux alors qu'il a le choix parmi plusieurs milliers d'autres.
Il n'y a pas d'empreinte sur les paquets, ni sur le ruban adhésif, ni sur l'intérieur de l'emballage, explique Peter. On est en train d'analyser la page du livre arraché, le papier bulle, le dessin d'enfant et le vieux tissu qui...
Et il s'interrompt quand tous les téléphones de la pièce émettent un même signal. Un nouveau paquet est arrivé à l'attention de Saga Bauer.